Je voudrais d'abord commencer par un récit, une histoire. Je voudrais vous raconter une histoire. Un jour, Manitou, Zichrono Livracha, m'a demandé de bien vouloir rencontrer un groupe d'ecclésiastiques catholiques qui ont demandé à me rencontrer. J'ai demandé à Manitou, mais pourquoi le faire? Il me dit pour ne pas leur dire non. Bon, d'accord, j'ai accepté de ne pas dire non. Et le sujet qui m'a été proposé, enfin, c'était la signification religieuse de Yom HaAtzmaout. Alors, nous avons discuté pendant 2 heures et demie. Je ne voudrais pas dire qu'ils ont connu leur douleur, mais en tout cas, ça a été extrêmement profond. C'est rentré dans les profondeurs de la. Comment dirais-je, de la problématique chrétienne. Et je pense que ça nous concerne, étant donné que, comme l'a dit Laura Fison, le retour d'Israël a des conséquences universelles. Il faut se rappeler que le christianisme est le noyau spirituel de la plus grande civilisation mondiale, qui est la civilisation occidentale. Et donc, il y a une importance à entretenir un dialogue, en tout cas une communication avec le monde chrétien. Et la question, ah voilà, vous savez ici, ah ben voilà, vous avez ici en chat, Shoshana Bechar nous a envoyé tous les détails nécessaires pour la prière de Yom HaAtzmaout. Bon, d'accord, j'accepte que des gens par chat introduisent également un message publicitaire. Ça ne dépend plus de moi. Bon, maintenant, je reviens donc à cette rencontre que j'ai eue avec ce groupe d'ecclésiastiques, pourrait-on dire d'ailleurs sympathisants d'Israël, hein, pour tout vous dire, qui m'ont posé la question de savoir quelle était la signification religieuse de Yom HaAtzmaout. Alors, je leur ai expliqué, il n'y avait aucune signification religieuse à Yom HaAtzmaout. De même qu'il n'y a aucune signification religieuse à la fête de Pessah ou au jour du Shabbat, et à aucun des commandements de la Torah, étant donné que la Torah, le judaïsme, n'est pas une religion, mais une identité nationale. Et donc, ce que nous fêtons à Yom HaTzmaout ou à Pessah, et dans toutes les fêtes, dans toutes les mitzvot, nous fêtons le retour, disons, l'accomplissement de notre identité nationale, qui est évidemment liée au Créateur du monde. Voilà, c'était ça le point de départ de notre discussion. Et alors, j'ai eu ici toute une série de questions qui m'ont été posées, telles que, mais comment est-ce qu'on peut donner un sens à, c'est des chrrétiens hein, qui parlent, comment est-ce qu'on peut donner un sens à un État qui transgresse le Shabbat, où il y a des problèmes de tsnihout, où on voyage, il y a des transports publics le jour du Shabbat, etc., etc. Ça, c'était, disons, le premier argument. Le deuxième argument, c'est qu'il faut attendre la venue du Messie, non? Et est-ce qu'on a le droit de fonder un État sans l'intervention directe de Dieu? Ces arguments, j'avais l'habitude de les entendre ailleurs, je les ai entendus souvent chez les Haredim, mais là, j'ai trouvé l'origine des arguments. Et puis, la question forte qui a été posée, mais est-ce que ce n'est pas finalement prétendre que c'est la force de mon bras qui m'a fait faire cette réussite? Alors là, c'est une citation directe de la Torah dans le livre de Devarim, dans la paracha de Ekev, dans laquelle il semblerait que la Torah nous interdit de parler de la force de notre bras. Alors, je leur ai dit, mais vous ne savez pas lire la Torah? Je vous demande de m'amener ici la Torah. Alors, ils m'ont amené une Bible ornée de symboles cruciformes. J'ai demandé si vous pouvez quand même amener un autre livre. Alors, finalement, ils m'ont amené une Bible hébraïque. Et je leur ai dit que dans la Torah, c'était un commandement de dire, c'est la force de mon bras qui m'a fait réussir. Et là, je voudrais, pour bien comprendre ce que dit la Torah, voir le contexte dans lequel ce verset a été dit. Alors, je voudrais, là, je lis ici dans la paracha, excusez-moi, ça prend un peu de temps de m'y retrouver. Voilà. Je lis ici dans le livre de Devarim au chapitre 8 au verset 7. Ki Hashem Elohecha meviacha el Eretz Tova. L'Éternel ton Dieu t'amène dans un bon pays. Eretz Nahale Maim, un pays de courants d'eau. Ayanot Uthomot, des sources, des abîmes. Yotseim Babika Uvahar, s'épanche dans la plaine et dans la montagne. Eretz Hitaus Ora Vegefen Utena Verimon, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figues et de grenades. Eretz Zetchemen Udvash, un pays où il y a des olives donnant de l'huile et du miel. Eretz, Asher lo bimiskenut ochal balechem. C'est un pays dans lequel tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté. Lo tersar kolba, tu n'y manqueras de rien. Eretz, Asher avanea barzel. C'est un pays dont les pierres donnent du fer. Umeharareha tartsov nechoshet. Et tu extrairas du cuivre de ces montagnes. Ve'achalta, ve'savata, et tu mangeras et tu seras rassasié. Bon, ça c'est jusque-là, c'est des versets qui nous disent que la bénédiction de Dieu fait que ça s'achève par le fait que tu mangeras et tu seras rassasié. Ve'achalta, ve'savata. Maintenant, je vous lis deux versets plus loin. Voici ce que dit la Torah. Ishamer lecha penchkach d'Hashem Elohecha, prends garde de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu, prends garde d'oublier, c'est-à-dire, n'arrive pas, je traduis mieux, prends garde d'oublier l'Éternel ton Dieu, les vilti shemor mitzotav shetav chukotav asharanuchim tzavecha ayom, de sorte que tu n'observerais plus ses commandements et ses préceptes et ses lois que je te donne aujourd'hui. Pentochal vesavata, de peur que tu ne viennes à manger et à te rassasier. Ah, j'ai rien compris. Si dans la bénédiction il est dit tu mangeras et tu seras rassasié, c'est quelque chose de positif. Après la Torah nous dit fais attention de ne pas manger et d'être rassasié. Donc manger et être rassasié est quelque chose de négatif. Alors, comment comprendre? Eh bien, il faut lire simplement la suite. Quand la Torah dit que c'est positif, elle dit « Ve'achalta ve'savarta »« Tu mangeras et tu seras rassasié »« Uverachta et Hashem Elohecha »« Et tu béniras l'Éternel ton Dieu »« Al ha'aretz ha'tova asher natan lach »« Pour la bonne terre qu'il t'a donnée » C'est-à-dire, si le fait de manger et d'être rassasié t'amène à faire le birkat hamazon, à remercier Dieu pour la nourriture qu'il t'a donnée. Donc la satiété est quelque chose de positif. Mais si cela t'entraîne à oublier l'Éternel ton Dieu, alors c'est là que la Torah dit « Fais attention, tu risques d'oublier l'Éternel ton Dieu lorsque tu seras rassasié. » Cela veut dire donc que être rassasié n'est ni un bien ni un mal, tout dépend de ce que l'on en fait. Et là, je continue. Ce que dit le verset. Ve'amarta bilvavecha, et tu diras dans ton cœur, Kochi ve'otsem yadi, ma force et la puissance de ma main ou de mon bras, asali et tahai laze, m'a donné toute cette réussite, ve'zacharta et Hashem Elohecha, et tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. Kihu anotenecha koach lasot ha'il, parce que c'est lui qui te donne la force de réussir. Conclusion, la Torah nous demande, de même qu'elle nous demande d'être rassasiés, parce que si on n'est pas rassasié, on ne peut pas faire le Birkat Hamazon, on ne peut pas remercier s'il n'y a pas eu de satisfaction. Donc il faut d'abord être satisfait pour pouvoir remercier. De même, la Torah nous dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu lorsque tu diras, c'est la puissance de mon bras qui m'a donné cette réussite. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs c'est comme ça que Rabbeinu Nissim de Gérone, le Ran, interprète ce verset. De même, Rabbi Yitzhak Abravanel, qui disent, la Torah ne veut pas faire abstraction des moyens. Or, le moyen, c'est le bras, c'est ma force, c'est mon armée. Mais il faut se souvenir que c'est Dieu qui nous a donné cette force. C'est la raison pour laquelle le Rav Tzvi Yehuda Kouk, le fils du Rav Kouk, Rosh Yeshiva du Merkaz Arav, envoyait ses élèves au défilé militaire de Yom HaAtzmaut, afin de dire c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a donné cette réussite, et de pouvoir ainsi accomplir la mitzvah, de se souvenir que c'est Dieu qui a donné cette force. Donc ce qu'on appelle la fierté nationale, l'orgueil national, le patriotisme, tout cela est tout à fait positif. C'est positif, il faut simplement se souvenir que c'est Dieu qui l'a donné. Alors évidemment, vous allez me dire, alors que dans ce cas-là, les Haredim ont raison quand ils critiquent le sionisme, parce que le sionisme laïque, lui, ne reconnaît pas que c'est Dieu, forcément, qui a donné cette force. C'est possible. Mais dans ce cas-là, on demande à ces religieux de bien vouloir, eux, le reconnaître. Parce qu'en fait, il y a deux manières d'être mécréant par rapport à la fondation de l'État d'Israël. La première consiste à dire, et ça, c'est ce que disent certains sionistes laïcs, disent, ce n'est pas Dieu qui a fondé l'État d'Israël, c'est le Palmar. C'est la Ghana, le Hetzel. Et il y a une autre manière d'être mécréant, c'est quand des religieux vous disent, ce n'est pas Dieu qui a fait l'État d'Israël, ce n'est que le Palmar. Et dans les deux cas, en fait, il y a ici une ingratitude envers l'Éternel. Rappelons-nous une chose, tous les problèmes que nous connaissons au cours de l'histoire commencent par ce qu'on appelle le péché du premier homme. Or, c'était quoi le péché du premier homme? La Torah nous raconte deux péchés du premier homme. Le premier, c'était effectivement cette histoire de la pomme. Enfin, bon, disons que il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire, mais enfin, disons le fruit de la connaissance. Et le deuxième péché, or le deuxième péché d'après la Guémara est toujours le plus grave, plus que le premier, et le deuxième péché c'est quand il manifeste son ingratitude envers Dieu, quand il dit « la femme que tu as mis avec moi, c'est elle qui m'a fait pécher ». Or, c'est ce péché d'ingratitude qui est à l'origine de toutes les difficultés que nous connaissons au cours de l'histoire. Conclusion. La gratitude que nous avons envers l'Éternel qui nous a donné l'État d'Israël, c'est la réparation de la faute du premier homme et donc le parachèvement de l'histoire universelle. Vous comprenez donc la responsabilité énorme qu'il y a dans le devoir de réciter le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut pour remercier l'Éternel de ce qu'il a fait pour nous. D'accord, c'est pas simplement un mouvement purement local de gratitude, c'est en fait reconnaître qu'il y a un sens à l'histoire. Il y avait en son temps des livres de ce qu'on appelle de l'histoire sainte. Ceux qui ont connu ça peut-être se rappellent, il y avait des précis d'histoire sainte, ce qui suppose qu'il y a une histoire profane. Mais ça, c'est une notion chrétienne, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie de l'histoire qui est sainte, une partie de l'histoire qui est profane. Mais Manitou nous disait que ce que la Torah nous a appris, c'est que l'histoire est sainte, toute l'histoire, y compris les tensions au niveau de la coalition et de l'opposition à la Knesset autour des lois fondamentales. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de la sainteté de l'histoire et ça demande donc un effort. Donc, c'est ça que j'ai expliqué à ce groupe d'ecclésiastiques que j'ai rencontré à l'époque. Je rappelle également une question qui m'a été posée par une des femmes présentes là-bas, une nonne, qui m'a demandé « Est-ce que vous allez construire le Beth Amikdash ?» Alors je lui ai dit « Mais bien sûr, nous allons le reconstruire. » Mais elle me dit « Mais c'est pas possible, Parce que d'après le judaïsme lui-même, parce que d'après ce que vous dites, monsieur le rabbin, ça voudrait dire que des hommes vont construire le Beth Amikdash, alors que d'après le judaïsme lui-même, c'est le Messie qui doit le construire. Alors j'ai dû lui rappeler avec délicatesse que dans la théologie juive, le Messie est un homme. Et voilà, bon, ça c'était pour vous donner un premier aperçu. Maintenant, on peut se dire, d'accord, c'est très joli tout ce que tu dis, la réussite, c'est donné par Dieu, tout ça. Mais y aurait-il un commandement positif dans cette histoire? Est-ce qu'il y aurait une mitzvah? En d'autres termes, est-ce que la fondation de l'État d'Israël est un commandement de la Torah ou pas? Alors, il y a à ce propos tout un débat. Je dis tout de suite, la halakha, c'est qu'il y a un commandement positif dans la Torah de fonder un État en Eretz Israël. Soit dit en passant, sur toute l'étendue d'Eretz Israël. Cette mitzvah est rapportée dans le livre des commandements, le Sefer HaMitzvot. Vous savez que le Sefer HaMitzvot, c'est un livre écrit par Maïmonide, dans lequel il y a la liste des 613 commandements, et il y a également des additifs. Alors, les additifs, entre autres, c'est de Nachmanide, pas Maïmonide, Nachmanide, Ramban, qui a écrit un commentaire du Sefer HaMitzvot et qui a également rajouté qu'il n'est pas d'accord avec le compte de Maïmonide. C'est-à-dire, Maïmonide, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 248 commandements positifs et 365 commandements négatifs, mais comment les compter, il y a différentes opinions. Alors, le Ramban, Nachmanide, dans son commentaire du Sefer HaMitzvot, nous dit qu'il y a des commandements qui ont été oubliés dans la liste du Rambam. Le quatrième commandement, c'est celui qui concerne ce dont nous parlons ici. Je vous lis ici ça en hébreu, Mitzvah Rivit, le quatrième commandement. Shenitztavenu la reshet haaretz asher natan ha'el yitbarach vit'ale la'avoteinu. Ce commandement qui est que de prendre possession du pays que l'Éternel a donné à nos ancêtres. Et Abraham, Yitzhak ou Yaakov, Abraham, Yitzhak et Jacob, velo na'azveha beyadzulatenu mina umot olishmama, de sorte que nous ne l'abandonnions pas à autre que nous parmi les nations ou à la désolation. Vehu omro lahem, c'est pour ça qu'il est dit, veorachtem et haaretz ba, vous prendrez possession du pays et vous vous y installerez, car c'est à vous que j'ai donné ce pays pour en prendre possession, vit nahaltem et haaretz, et vous vous établirez dans le pays. Donc, pour le Ramban, il y a un commandement positif de fonder l'État d'Israël. Conclusion, lors de la fondation de l'État d'Israël, David Ben Gurion aurait dû faire la bénédiction Asher kideshanu b'mitzvotah vetzivanu le'akim medina, qui nous a ordonné de fonder un État. Je crois qu'il n'a pas récité la bénédiction, bien que le Rav Maimon, qui était présent à ce moment-là, a fait la bénédiction de Shehriyanou. Mais ça n'a aucune importance, parce que les mitzvot, il y a un principe qui est Berachot enan me'akvot, les bénédictions n'empêchent pas l'accomplissement d'une mitzvah. Et peut-être qu'il pensait peut-être comme les Haredim, qu'il n'y a pas de mitzvah. Venirpal kazeha inyan bimkomot. Et il amène également d'autres textes de la Torah dans lesquels il y a une répétition de ce commandement. Par exemple, dans Devarim, Bo urshu et allez, prenez possession du pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres. Uferetota lahem bimitzvazo kula bigvuleha ou metzareha. Et il a donné également le détail de cette mitzvah. C'est la raison pour laquelle il y a les frontières d'Eretz Israël dans la Torah, que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit, etc. Et il ramène également que la faute des explorateurs était le refus d'accomplir cette mitzvah, et que c'est la raison pour laquelle Israël a été puni. Voilà. Bon, alors, bon, si nous avions le temps, alors on rentrerait dans tout le détail de chaque ligne du Ramban, je ne vais pas le faire. Simplement, rappelez-vous que d'après le Ramban, c'est un commandement positif de prendre possession de la terre d'Israël. L'opinion du Ramban a été reprise par plusieurs grands maîtres de la halakha au cours de l'histoire, entre autres le Gaon de Vilna, Rabbi Yehuda Hayash, le Rav de Sokhotchov, et également le Ribash et le Rashbash, qui étaient les grands maîtres de l'Afrique du Nord. Enfin bref, ce commandement, tel qu'il a été formulé par le Ramban, est admis, disons, de manière quasi générale dans le monde de la halakha. Cependant, il y a une opposition à cela. L'opposition se trouve dans un livre parallèle à celui du Ramban, qui est le Megillat Esther. Le Megillat Esther n'a rien à voir avec le rouleau d'Esther qu'on lit à Purim. Le Megillat Esther est un livre qui prend la défense de Maïmonide contre Nachmanide, qui a été écrit par un rabbin d'Italie, le Rav Yitzhak de Léon. Rav Yitzhak de Léon dit que la raison pour laquelle Maïmonide n'a pas mentionné cette mitzvah, c'est parce qu'effectivement, il pense que non seulement il n'y a pas de mitzvah de fonder un État, mais qu'il y aurait même une interdiction de le faire. Alors là, je vous lis ici ce que dit le Megillat Esther. Venir Ali, il me semble, dit l'auteur. Quel problème là? Got it. Voilà. Ce que dit ici le Megillat Esther, Nir Ali qui mâche l'hoména harav, le fait que le rav, c'est-à-dire Maïmonide, n'a pas mis ça dans la liste des mitzvot, ou les fiches mitzvot Yerushat Haaretz Vishivata, l'onahaga ragbime Moshe Vioshua Vidavid. Il dit ce commandement de prendre possession de la terre d'Israël n'était valide que du temps de Moshe, Yehoshua et le roi David. Donc, ce que dit le Megillat Esther, c'est que ce commandement est suspendu jusqu'à la venue du Messie. Bon, il y a énormément d'arguments qui sont amenés par le Megillat Esther, qui aucun, pour vous dire avec respect, ne tient la route. Tout cela, en fait, ne tient pas la route, ne serait-ce que par exemple cet argument que Maïmonide n'aurait pas mentionné un commandement parce qu'il n'est valable qu'au temps du Messie. Mais le Maïmonide cite une quantité énorme de commandements qui ne sont pas valables de nos jours, mais qui sont valables du temps du Messie. Donc ce n'est pas la raison pour laquelle le Ramban n'a pas mentionné cela. Mais de plus, il rajoute quelque chose de très fort. Qui adraba nitztavenu, mais à plus forte raison, nitztavenu les filles machéamou besof ktubot shelo nimrod baumot la lechet irbosh taaretz. Et il ramène ici donc les trois serments mentionnés dans le traité de Ketubot qui interdisent de prendre possession de la terre pendant le temps de la galoute. Et donc, si c'est interdit, évidemment, ce n'est pas une mitzvah. Voilà, c'est ce que dit ici le Megillat Esther. Il y a quand même ici, pourquoi je vous amène le Megillat Esther? Parce que d'abord, il faut toujours amener les opinions contraires, même si elles sont fausses. Mais il rajoute ici quelque chose de très important. Il dit, cette mitzvah n'est valable que lorsque nous retrouverons notre indépendance. Donc, même d'après le Megillat Esther, et ça c'est mis en évidence par un des commentateurs, Rabbi Tzadok de Lublin au XIXe siècle, qui dit que même selon le Megillat Esther, en fait, à partir du moment où nous retrouvons notre indépendance sur notre terre, le commandement de prendre possession de la terre redevient non seulement valide, mais il devient obligatoire. Donc, en fait, ça veut dire que, selon toutes les opinions, il faut effectivement prendre possession de la terre. C'est la raison pour laquelle le service militaire dans Tsahal est un commandement positif selon la Torah. Maintenant, ce commandement concerne qui? Est-ce qu'il concerne, par exemple, un vieillard de 90 ans qui n'a pas la force de porter une arme? Évidemment, non. Est-ce que ce commandement concerne également un enfant? Évidemment, non. Est-ce que cela concerne les femmes qui ne sont pas faites pour la guerre? Évidemment, non. Mais toute personne qui est capable de porter les armes fait partie de ce commandement. Alors cela voudrait donc-il dire que il faudrait en permanence être présent à l'armée? Évidemment, non, non plus, pour une raison très simple. C'est que pour faire la guerre, il faut pour cela avoir un pays à défendre. Or, ce pays est fait de civils. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il y a une guerre, il n'y a pas un appel à tous ceux qui font des milouives de venir. Il y a une régulation de la présence à l'armée. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des élèves de Yeshiva peuvent parfois repousser leur enrôlement dans l'armée. Le fait de repousser ne veut pas dire qu'on est dispensé. C'est quelque chose de très important. Et donc, il faut pour cela, d'ailleurs, vous avez dans la Torah une liste de personnes qui, elles, sont dispensées de la guerre. C'est celui qui a fiancé, qui s'est fiancé, mais qui n'a pas consommé son mariage. Celui qui a planté une vigne mais ne l'a pas récoltée, celui qui a construit une maison et n'a pas fait d'inauguration, ceux-là sont dispensés de l'armée, mais, dit la halakha, ce n'est valable que dans le cas de ce qu'on appelle la guerre facultative, c'est-à-dire une guerre qui n'est pas une guerre de défense, ni même une guerre de conquête, mais une guerre qui est pour étendre le territoire du roi d'Israël. De là, on est dispensé. Mais si c'est une mitzvah, si c'est ce qu'on appelle milchemet mitzvah, personne n'est dispensé, ni les talmidei chachamim, ni ceux qui ne sont pas talmidei chachamim. D'ailleurs, rappelons une chose importante, c'est que je crois que parmi les plus grands guerriers de notre histoire, nous avons des talmidei chachamim. Par exemple, Moshe Rabbeinu et Yehoshua ben Nun et le roi David. Et tant d'autres qui tous étaient des maîtres de la Torah et qui ont fait la guerre. Alors maintenant, la question qui se pose, oui, vas-y, vas-y, David, mais voilà, on
Alors, j'ai une
t'entend.
question. On dit que David Ameller, il a pas pu faire le Beth Amikdash justement parce que c'était un grand guerrier et qu'il a versé trop de sang. Alors,
Oui.
est-ce qu'il n'y a pas une contradiction du fait que c'était pas forcément idéal de faire la guerre alors?
Ça veut dire que, étant donné qu'il a accompli une mitzvah, il était empêché d'en faire une autre. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une mitzvah. Maintenant, ce que l'on reproche au roi David, dit Maïmonide, c'est pas le fait d'avoir fait la guerre, c'est d'avoir été cruel. C'est-à-dire, quand on fait la guerre, on l'a fait parce que c'est nécessaire. Mais il y avait chez David également disons, un surplus d'engagement qu'il a fait verser trop de sang, et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une mitzvah ou pas une mitzvah, mon flanc. Et donc, passons. Et alors, on pourrait amener une objection. L'objection se base sur un texte de Maïmonide qui, à nouveau, a été très mal lu. Je lis ici dans Ilchot Shemitah Veyovel, les règles concernant l'année sabbatique et le jubilé. Et dans lequel je vous lis ici les deux derniers paragraphes de ce texte. Alors, le premier, c'est le suivant. Quelle est la raison pour laquelle la tribu de Lévi n'a pas reçu sa part en Eretz Israël et dans son butin avec ses frères? Parce qu'il a été séparé pour le service de Dieu, ou les horot des rachav et enseigner ses lois droites, ou mishpata vatsadikim l'arabim, et ses lois justes pour la multitude. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yoru mishpatecha li Yaakov, vetoratra li Israël. Ils enseigneront tes lois à Jacob et ton enseignement à Israël. Lefichar, c'est la raison pour laquelle ils ont été séparés des habitudes du monde. Ils ne font pas la guerre comme le reste d'Israël. Ils n'héritent pas et ne s'emparent de rien par la force de leur corps. Car ils sont l'armée de Dieu. Ainsi qu'il est dit, béni, toi, Dieu, son armée. Veu baruchu zika lahem, et c'est lui qui leur a donné sa part, leur part, chez Neymar, Ani Chelkecha, Venachalatecha, je suis ta part et ton héritage. Donc, ce que dit ici Maïmonide, la tribu de Lévi ne fait pas la guerre, ne fait pas de conquête, parce qu'elle est l'armée de Dieu. Alors, évidemment, de quoi s'agit-il? Il s'agit évidemment de ce qu'on appelle Milchemet Arishut, de la guerre facultative. Mais si la tribu de Lévi avait un territoire à conquérir, évidemment, elle ferait la guerre même en étant des sages de la Torah. Mais en tout cas, ce passage ne concerne donc que la tribu de Lévi. Maintenant, l'argument contre l'enrôlement des élèves de Yeshiva se base sur le texte qui vient juste après. Et là, c'est là que le texte a été mal lu. Je lis ici la Halakha 13, Yud Gimel, Velo Shevet Lévi Bilvad. Mais non seulement, pas seulement la tribu de Lévi. Et là, Kol Ish Vaish Mikol Bae Olam, de même tout homme parmi tous ceux qui sont arrivés dans le monde. C'est quoi ceux qui sont arrivés dans le monde? Il s'agit de tout homme sur terre. Donc ce que dit ici Maïmonide ne concerne pas des juifs, mais il concerne tout homme sur terre, juif ou non-juif. Et nous allons voir d'une manière très intéressante, c'est que Maïmonide fait un détail des choses et il ne parle pas de l'armée. Asher Nadvar Ucho Oto, que son esprit a amené à la générosité, Vevino Madao, et dont l'intelligence lui a fait comprendre, Lehibadel Lamod Ifne Hashem Lesharto, de se tenir devant Dieu pour le servir, ou leur Ovdo, et le servir, la da'at et Hashem, afin de connaître Dieu. Ve'alach yashar kemo she'asahu Elohim, et qui va droitement comme Dieu l'a fait, ou farak me'al tzavaro o la cheshbonot arabim asher bikshu bene Adam, et qui s'est débarrassé de toutes les préoccupations du reste des hommes. Hareze nitkadesh kodesh kodashim, celui-ci est saint parmi les saints. Et Dieu sera sa part et son héritage pour l'éternité. Et il lui donnera dans ce monde d'avar à maspiklo, ce qui est nécessaire à sa subsistance, comme il l'a fait pour les prêtres et les lévites. Est-ce que Maïmonide dit qu'il est dispensé d'aller à l'armée? La réponse est non. Maïmonide ne dispense personne de l'accomplissement d'une mitzvah de la Torah. Ce qu'il dit simplement, c'est que si quelqu'un se donne au service de l'Éternel dans sa vie, eh bien Dieu s'occupera de lui. Mais il ne dit pas qu'il est dispensé d'aller à la guerre. Maintenant, voyons la fin des paroles de Maïmonide, c'est extrêmement édifiant. Haré David Omer, voici que David dit, Hashem menat helki vechosi ata tomir gorali. David disait, toi, le Dieu qui est ma part et mon héritage, c'est toi qui me soutiens. Tiens donc, que faisait le roi David dans sa vie? Eh bien, il a fait la guerre. Combien de guerres a-t-il fait? Si vous regardez dans la Bible, vous voyez que David a fait 18 fois la guerre dans sa vie. Donc, c'est donc ce verset du roi David qui est amené par Maïmonide pour illustrer son propos. Donc, on voit très bien que Maïmonide ne parle pas de dispenser qui que ce soit, qu'il soit Talmid Chacham ou pas, du service militaire. Yaakov Zerbib veut dire quelque chose. Ben, qu'il le dise! Mais on n'entend rien, étant donné que son
micro est fermé. Excusez-moi, j'ai une dictature.
Voilà, vas-y.
J'ai une question par rapport à ça, Rav.
Oui.
Et à part la preuve, en fait, avec David Améler que Rav vient de dire, qui est vraiment, a priori, inéfutable, la choix au début du texte, il dit « Velo Shevet Levi Bilvad ». Vous n'avez pas entendu que c'est juxtaposé à ce qu'il a dit avant, où il a dit Lohri
C'est très
Milchama?
bien. Alors, s'il disait seulement Velo Rakshavet Velo Luvat, ça voudrait donc dire que tout ce qui a été dit pour la tribu de Lévi serait dit également pour cet homme qui se propose de servir Dieu. Mais si le Rambam rentre dans le détail et qu'il reprend tout ce qu'il a dit de la tribu de Lévi sans parler de la conquête, alors là, c'est significatif. D'accord? Donc, c'est ça que dit Maïmonide. Maintenant, il y a également, dans le fait de faire la conquête, il y a également un aspect, disons, déplorable. Ce sont les pertes. Les pertes, ceux qui sont emportés par la tourmente de la guerre, ou blessés, ou victimes du terrorisme. Quel est le sens que nous donnons à cela? D'ailleurs, nous sommes, je pense, le seul peuple de la Terre qui, la veille de son jour d'indépendance, a également un jour à la mémoire de ceux qui sont tombés au combat. Et qu'est-ce que cela signifie? Il y a d'ailleurs une critique parfois qui se fait entendre que c'est trop proche l'un de l'autre. Il faudrait séparer le jour, mettre une distance, en tout cas, entre le jour de la commémoration de ceux qui sont tombés à la guerre et le jour de l'indépendance, parce que ce passage est trop traumatisant. Mais à mon avis, je pense que c'est très important justement de cet accolage est significatif. Il veut dire que nous savons faire la part des choses. Il y a d'une part le fait de reconnaître ce que nous devons à ceux qui sont tombés au combat et que nous n'oublions pas donc leur sacrifice et que nous sommes malgré tout capables de reconnaissance envers le Créateur qui nous a donné l'État d'Israël. Il y a à ce propos une source rabbinique importante. Je voudrais ici citer un responsable, peut-être pas très connu, du Hida. Le Rav Hida, c'est les initiales de Chaim Yosef David Azoulay, qui vivait au XVIIIe siècle et au début du XIXe. Le Rav Hida, qui est une des plus grandes autorités de la Halakha, dit, a été interrogé par une communauté qui a eu un miracle. Bon, un miracle, ça veut dire quoi? Ils ont été sauvés d'un événement malheureux. Le Hida n'explique pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais il explique les questions, il met en évidence les questions qui lui ont été posées par la communauté. Je crois que c'était une communauté en Italie. Et ils lui ont demandé est-ce qu'ils font bien de faire les choses suivantes. Tout d'abord, de faire chaque année un jeûne en souvenir du malheur dont ils ont été menacés. Deuxièmement, est-ce qu'il est bon de faire un jour de fête chaque année à la sortie de ce jeûne en souvenir du sauvetage? Troisièmement, est-ce qu'il est bon de réciter le Hallel? Quatrièmement, est-il bon de réciter le Hallel le soir? Donc, vous avez quatre questions qui ont été posées par cette communauté. Pour ce qui est du jour de jeûne, alors le Hida dit, c'est une très bonne idée que vous avez de faire un jour de jeûne avant le jour de la fête. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu le jour de jeûne que nous faisons la veille de Pourim. En effet, nous jeûnons, entre autres, à cause du décret d'extermination qui a été formulé par Haman, eh bien, ce décret d'extermination, bien qu'il a été finalement annulé et que nous avons eu la victoire, nous nous rappelons du danger auquel nous étions exposés, de la menace. Et cette menace, donc, mérite un jeûne. Et donc, le jeûne de la veille de Pourim, le jeûne de la veille du jour de festivité de la communauté qui a interrogé le Hida, et le Yom HaZikaron, le jour du souvenir dans lequel nous commémorons ceux qui sont tombés, eh bien tout cela relève de la même mouvance de la Halakha. Petite remarque à ce propos, il y a une sonnerie qui se fait entendre le jour de Yom HaZikaron et on se lève. On se lève et on reste en silence. Alors, il y a eu certaines objections, évidemment, comme toute chose en Israël, ça ne passe pas sans objection. Alors, certains ont dit oui, mais c'est une habitude des goyim. C'est un minhag goyim, et donc il ne faut pas se comporter comme les goyim. Alors, il y a à ce propos plusieurs remarques. Tout d'abord, même si c'était un minhag, une habitude des goyim, et alors si elle est bonne, pourquoi ne pas adopter une bonne habitude des goyim? Ce n'est que lorsque quelque chose a un rapport avec l'idolâtrie que c'est interdit. Mais il y a aussi autre chose. Ce n'est pas une habitude des goyim. On n'a jamais vu parmi les goyim qu'on observait qu'il y aurait une sonnerie à la mémoire de ceux qui sont tombés. Absolument pas. De plus, le fait de se taire est en rapport direct avec la halakha. En effet, selon la halakha, l'endeuillé ne parle pas. Ainsi qu'il est dit, Vayidom Aharon. Aharon s'est tu. Et le fait de se lever fait partie également de ce qu'on appelle le kavod. Quand on fait une ashkava, c'est-à-dire la prière à la mémoire d'un défunt, à la synagogue, eh bien, l'habitude est que les membres de la famille se lèvent. Donc, le fait de se lever et de se taire, c'est un élément de la halakha. Donc, il n'y a aucun problème. Au contraire, cela est extrêmement impressionnant de voir toute la circulation s'arrêter au moment de la sonnerie en l'honneur de ceux qui ont disparu. Mais je voudrais, si déjà nous avons cité le Chida, rappeler une chose intéressante. Pour ce qui est du jour de fête, le Chida dit c'est une très bonne idée de faire le jour de fête. Il faut faire un jour de fête en souvenir du miracle. Donc c'est la base également de Yom HaAtzmaout. Et puisque pour ce qui est du Hallel, il dit on ne dit le Hallel que lorsque le miracle concerne l'ensemble du peuple d'Israël et pas une communauté. Donc de là nous apprenons que étant donné que l'événement de l'indépendance d'Israël est un événement qui concerne l'ensemble du peuple d'Israël, il faut donc réciter le Hallel. Et pour la question de savoir s'il faut faire le Hallel le soir, le Chida dit, on ne fait pas le Hallel le soir, parce que nous avons toujours vu que le Hallel a été fait pour le matin et pas pour le soir. Ah, mais alors il dit, mais qu'est-ce qu'il en est donc du Hallel qu'on dit le soir de Pessah? Il dit, c'est autre chose, parce que c'était selon la Kabbalah, un moment très important. Qu'est-ce qu'il dit dans la Kabbalah à ce propos? Que c'était le mot, et là je cite le Hari, c'est que c'est le moment où tous les mondes se sont élevés d'un seul coup, pourrait-on dire. D'habitude, vous savez, selon les kabbalistes, il y a une élévation des mondes, mais elle est graduelle. Elle ne se fait pas en un seul moment. Mais lors de la sortie d'Égypte, tous les mondes se sont élevés ensemble pour les faire sortir de la servitude à la liberté. Donc, ça veut dire que ce que dit le Chida, c'est que lorsqu'il y a le miracle fait passer de la servitude à la liberté, alors on dit le Hallel le soir, mais pas quand c'est un simple miracle local ou le miracle d'une petite communauté. Donc, ça veut dire que selon le Chida, contrairement à l'utilisation qu'on a faite de ce texte du Chida pour dire qu'il ne faut pas dire le Hallel le soir, bien au contraire, d'après le Chida, il faut donc dire le Hallel le soir de Yom HaAtzmaut. Donc nous avons gagné ici les quatre éléments. Tout d'abord, l'origine du Yom HaZikaron, l'origine du Yom HaAtzmaut, l'origine du Hallel et l'origine du Hallel le soir, tout cela dans ce passage du Chida, dans son responsa qui s'appelle Chaim Sha'al, deuxième partie, onzième responsa. Il y a également un discours qui est parfois entendu, qui est que, étant donné que la fondation de l'État d'Israël et les guerres d'Israël entraînent des victimes, et donc ça entache la joie, et donc on ne peut pas se réjouir de Yom HaTzurut, étant donné qu'il y a eu des victimes, il y a eu ceux qui sont tombés au combat ou qui sont victimes du terrorisme. Alors, à ce propos, je voudrais quand même faire une petite remarque d'ordre mathématique, qui risque d'être un peu choquante, mais qui pourtant reste vraie. Nous savons que le nombre de personnes qui sont tombées depuis la fondation d'Israël jusqu'à nos jours, y compris non seulement les soldats tombés au combat, mais également les victimes du terrorisme, cela approche le nombre de 30 000 personnes. Chaque âme en Israël est chérissable et elle est irremplaçable. Rappelons simplement un élément mathématique. 30 000 personnes, c'est ce qui était abattu en un jour à Auschwitz. Et donc, on peut voir qu'au niveau de la proportion, je pense qu'il faut savoir faire la différence. C'est-à-dire, quand nous parlons de 6 millions de victimes lors de la Shoah, alors ce n'est pas proportionnel à ce que nous connaissons de nos jours. D'où l'importance d'être reconnaissant à l'Éternel, même si nous savons que nous avons payé un prix. Et ce prix n'est pas remplaçable. Toute personne qui est tombée est irremplaçable. Cela ne doit pas nous empêcher de reconnaître la marche de l'histoire et le fait que nous vivons un temps de Géoula. Alors, si déjà nous parlons donc des victimes inhérentes au retour d'Israël à sa terre, je voudrais également donner quelques mots personnels. Je pense qu'on m'a demandé également de parler d'une certaine manière de mon aventure personnelle et celle de ma famille. Vous savez que il y a déjà 8 ans, un de mes enfants a été victime du terrorisme, a été victime d'une attaque bélier à Jérusalem. Et chaque année, donc, nous célébrons sa disparition en tant que victime du terrorisme. Et je voudrais rappeler simplement quelque chose. Mon fils s'appelait Shalom. Shalom Yochai Cherki. Shalom veut dire la paix. Et bon, alors vous allez dire, d'accord, ben, on donne toujours des noms de toutes sortes, etc. Mais il y a quand même un point important, c'est qu'il était tout à fait conscient. D'ailleurs, on dit toujours, c'est les meilleurs qui s'en vont. Shalom était quelqu'un qui portait bien son nom. En effet, il disait à la fin de toute discussion, de toute rencontre qu'il avait avec toute personne, il disait à la fin, Heyu Shalom, soyez en paix. Parce que, disait, Ani kvar Shalom, je suis déjà la paix. Ça veut dire quoi? Je suis la paix. C'est-à-dire qu'il voyait comme mission dans sa vie d'amener la paix chez les gens. En fait, sa préoccupation était que tout entretien qu'il avait avec quelques personnes que ce soit laisse un message de paix ou en tout cas un bénéfice à la personne qui l'a entendu. Ce qui fait que de manière surprenante, après sa disparition, j'ai pu entendre beaucoup de personnes me dire j'étais son meilleur ami. Parce qu'effectivement, lorsqu'il parlait avec quelqu'un, le sentiment qu'il donnait à la personne et qui était vrai à ce moment-là, c'est qu'il n'y a que toi dans le monde. Personne d'autre ne m'intéresse autre que toi. Étant donné que la Providence a fait que nous nous rencontrons, donc c'est que j'ai une mission envers toi de te donner le meilleur de moi-même pour te donner quelque chose de positif à la suite de cette rencontre. Et donc c'est ça. Qui était particulier à lui, ce qui explique pourquoi je continue d'une certaine manière son œuvre, je pense, telle qu'il l'aurait voulu. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu l'organisation Heyu Shalom, qui est faite de bénévoles qui s'occupent de distribuer, par exemple, des repas et d'entretenir des. Enfin, de donner une subsistance à des familles nécessiteuses et de les faire sortir également, avec toute une stratégie de les faire sortir de la misère. Et donc, je soutiens par exemple l'organisation Heyu Shalom. Mais pas seulement cela. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, il y a ici un petit cadre. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, je pense que vous le voyez à l'envers sur l'écran. Il y a écrit Ani bocher lichiot mitor simcha, c'est-à-dire je choisis de vivre à partir de la joie, de vivre dans la joie. Cette feuille que vous avez ici donc encadrée, nous l'avons retrouvée, nous l'avons retrouvée dans les affaires de Shalom, dans le cartable qu'il portait sur ses épaules au moment de l'attentat. Ça veut dire c'est lui qui l'a écrit. Et je pense que c'était un message. C'est beaucoup mieux que de mettre une photo ou une peinture qui représente la personne disparue, qui fait que quand vous rentrez dans la maison d'une famille atteinte par le terrorisme, alors voilà, vous vous sentez immédiatement imposé, de rentrer dans la tristesse, dans le deuil, etc. D'ailleurs, c'est un message assez négatif qui est souvent porté dans les réunions officielles dans lesquelles nous disons, nous savons que vous autres, les familles victimes du terrorisme, votre vie est brisée, qu'il n'y a plus rien à faire, que rien ne remplacera, etc. Je pense que c'est fortement négatif. La Torah est une Torah de vie, elle n'est pas une Torah de commémoration de la mort. C'est le fait de se rappeler des disparus n'est pas pour entrer dans la tristesse, mais au contraire pour tirer de là des nouvelles énergies, des énergies dans lesquelles qui nous amènent disons, à compléter ce que les disparus n'ont pas pu faire. Et qu'ils attendent de nous de faire à leur place. C'est donc ça, c'est la raison pour laquelle je vous parle également de Shalom, parce que Shalom aurait voulu effectivement que ce que nous pouvons tirer de son malheur, c'est justement l'énergie nécessaire pour continuer son œuvre et l'amplifier. C'est ça donc le Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Bon, tout ça, c'était donc pour vous parler du Yom HaZikaron et également de la puissance de notre bras. Tout cela, en fait, se réfère à un enseignement de Rashi sur la Torah. Vous savez qu'au début du livre de Bereshit, Rashi amène le texte de Rabbi Yitzhak qui dit que la Torah aurait dû commencer son récit par Achodesh Hazeh Lachem, par le premier commandement qui a été donné à Israël, qui est d'instituer le mois de Nissan comme étant premier mois de l'année. Et pourquoi donc la Torah a-t-elle commencé par Bereshit? C'est pour répondre à l'argument des nations. Quel est l'argument des nations? Vous êtes des brigands parce que vous vous êtes emparés du pays des sept nations, c'est-à-dire le pays de Canaan. Alors, on pourrait penser que l'argument des nations, c'est vous êtes des voleurs, vous avez pris une terre qui n'est pas la vôtre. Mais en vérité, c'est pas du tout ça que dit Rashi, parce que et là, c'est une question posée par Manitou. De quel goyim s'agit-il? Est-ce que ce sont des goyim qui croient en la Torah ou des goyim qui ne croient pas en la Torah? Si ce sont des goyim qui croient en la Torah, ils n'ont pas besoin de Bereshit pour savoir que Dieu nous a donné cette terre. Si ce sont des goyim qui ne croient pas en la Torah, alors de quoi s'agit-il? Comment est-ce qu'un texte de la Torah pourrait les convaincre? Et donc la réponse de Manitou était que ce sont des goyim qui croient en la Torah. Si ce sont des goyim qui croient en la Torah, l'argument n'est pas cette terre n'est pas la vôtre, mais vous avez utilisé la violence. L'istimatem shekibashtem. Vous êtes des brigands d'avoir fait la conquête. Vous auriez dû attendre que Dieu lui-même vous fasse une grâce et vous donne ce pays sur un plateau d'argent. Vous n'aviez pas le droit de faire la guerre. Et ça, c'est l'argument c'est un argument donc des chrétiens. Effectivement, le pape Paul VI a dit à Golda Meir, je suis ébranlé par la violence exercée par les Juifs en Terre Sainte. Il n'a pas dit vous êtes des voleurs. Et la réponse de Golda Meir a été oui, mais c'est à nous. Si c'est à nous, nous avons non seulement le droit, mais peut-être le devoir d'utiliser même de la force pour prendre possession de la terre que Dieu nous a donnée. Et maintenant, où est-ce que dans Bereshit, il est dit qu'on a le droit ou même le devoir d'utiliser la force pour prendre possession de la terre? Ben, c'est écrit dans le verset 28, Milou et Haaretz, Vekivshua, remplissez la terre et prenez-en et faites-en la conquête. Donc on voit bien que c'est la conquête qui est c'est-à-dire le mérite de l'effort humain qui est la manière d'accomplir les dons que Dieu fait à l'homme. C'est ça donc, c'est donc là que Rashi nous dit, si déjà Dieu donne quelque chose, il faut avoir le mérite de l'effort pour s'en emparer. Contrairement à l'idée chrétienne comme quoi tout doit venir d'une grâce divine. Je vois ici qu'il y a deux mains qui ont été levées, tout d'abord par M. Messan. Allez-y, parlez donc. Mais il faut pour ça ouvrir le micro d'Abraham Albert Messan. N'est-ce pas, David? Voilà, voilà, ça y est, maintenant c'est ouvert. Allez-y.
Oui, peut-être qu'à chaque arabe, hein.
Oui.
Retourne à une de un de vos enseignements que vous avez fait dans la semaine.
Oui.
Qui parlait toujours de Yom Razikaron. Et vous dites que Ari Zal dit que les Berurim et les Nevraïm, c'est-à-dire ceux qui reçoivent la vie et ceux qui méritent l'être. Et là, vous dites que l'homme est le seul qui mérite son être. Et je ne vous ai pas bien saisi du fait que les animaux aussi donnent la vie. Alors, oui. Pourquoi vous dites qu'il n'y a que l'homme qui mérite son être?
Tout simplement, pour une raison très simple. D'ailleurs, ce texte que vous dites, cet enseignement que j'ai donné, il n'a pas été donné cette semaine, il a probablement été publié cette semaine. Mais les animaux n'ont pas ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire, le choix de la vie dépend de la liberté. Or, les animaux sont mus par des instincts, et donc ce n'est pas la même chose. Voilà. David Altar, s'il vous plaît.
Alors, on va poser une question, mais j'imagine que vous aurez mieux la réponse que moi. C'est qu'est-ce que c'est le Kiddush Hashem?
Le Kiddush Hashem, c'est la sanctification du nom de Dieu, tout simplement. Alors, cette sanctification se fait de différentes manières. Elle se fait essentiellement par la vie. En effet, la Torah dit Achaim ve'amavet natati lefanecha uvacharta b'chaim, je t'ai donné le choix de la vie ou de la mort et tu choisiras la vie. Ça veut dire que j'ai donné le choix de la vie et de la mort. Ça veut dire qu'il y a deux manières de sanctifier le nom de Dieu. On peut sanctifier Dieu dans la vie, on peut sanctifier Dieu en donnant la vie, en donnant sa vie, c'est-à-dire en se sacrifiant. Mais ce que la Torah donne comme primordial, c'est uvacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Ce n'est que a posteriori, ce qu'on appelle bidiavad, que l'on peut dire si les nécessités de l'existence font qu'on doit donner sa vie, alors on la donne. Mais il n'y a pas, disons, d'exaltation de la mort. C'est-à-dire, comme disait Manitou, quand les terroristes sont prêts à se suicider pour faire du mal, ce n'est pas qu'ils donnent leur vie, ils donnent leur mort. Il y a une exaltation morbide de la mort. Tandis que dans la Torah, quand la Torah dit que parfois il faut sacrifier sa vie, c'est quand il n'y a pas le choix, parce que l'alternative serait pire que la mort. Et donc, c'est toujours donc bidiavad. Madame Berliner.
Oui, bonjour Arav. Est-ce que dans la tradition juive, est-ce qu'il y a un jour où l'on faire le deuil, ça veut dire, comme Yom HaZikaron, ça veut dire pleurer ses morts, où il n'y a pas cette notion?
Je ne me pense. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'il y aurait donc, selon la tradition juive, un jour ou quoi?
Un jour où quand on pleure les morts, parce que finalement dans l'histoire juive, je ne vois pas dans le Louar juif où il y a un jour de pleurs carrément. C'est toujours.
Oui, alors il y a pour cela deux traditions différentes. Les Ashkénazes font un concentré de toutes les prières de commémoration des morts le dernier jour de chaque fête, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot, le dernier jour de Pessah et le dernier jour de Shavuot, là où il y a 2 jours. C'est ce qu'on appelle le Yizkor. Alors en fait, il y a quelque chose d'assez plaisant, c'est que c'est le moment où tous ceux qui n'ont pas de Kaddish à faire sortent de la synagogue et discutent le bout de gras. Mais il y a donc cette commémoration, le Yizkor, et chez les Séfarades, on fait la Hashkava, la prière pour les morts, chacun personnellement, le jour de la disparition. Effectivement, il y a une tendance à la réduction du deuil. C'est le principe qui est halacha kemekel be'avel. La halacha est toujours selon celui qui va dans le sens de la facilité quand il s'agit du deuil. C'est un optimisme fondamental. Effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer les morts, il faut les pleurer. D'ailleurs, la halakha dit, il y a 3 jours après le décès pendant lesquels on pleure. Après, c'est le deuil, mais ce n'est plus les pleurs. Voilà, merci de votre attention. Ah, Norbert Laloum,
Alors,
allez-y,
une
ce sera la
question,
dernière
s'il vous
question.
plaît, une
Ah.
dernière question à
Oui,
propos du Hallel. Vous avez
oui.
dit qu'il fallait lire le Hallel
Oui.
le soir, etc. Quid de la bracha?
Ah oui, avec la bracha, évidemment. D'ailleurs, vous, si vous venez
Pourquoi
au Kotel,
certains
vous.
disent que c'est sans bracha?
Ah, évidemment, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Vous savez, pour toute question de halakha, vous avez pris une quinzaine d'opinions. Alors, si vous voulez, mon opinion, c'est qu'il faut faire la bracha, mais ça demanderait un développement d'un cours de halakha qui prendrait bien 1 heure. Et donc, je vais vous en dispenser. Voilà.
Une question de Norbert Laloum, une dernière question. Arabe.
Oui,
Est-ce que
non, il a
moi
déjà posé la question.
on complète le Hallel? Est-ce qu'on peut faire effectivement de sonner le shofar en ouvrant les portes du Héral?
Ah oui, bien sûr, d'ailleurs, ça, on le fait. On sonne le shofar. C'est disons, plutôt un beau minhag. Ce n'est pas la takana essentielle. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que je voudrais donner la place au Rav Benaroche. Et vous remercier, vous souhaiter une bonne fête de Yom HaAtzmaout. Et étant donné qu'il est interdit de faire de politique, je ne dirais pas qu'on va se retrouver à la manifestation, puisque c'est de la politique, on ne peut pas introduire ça dans un cours de temps. Voilà.
À jeudi, Adam.
Shalom, shalom.
Merci, Rob.
Bonne
Bonne
à
journée.
cher Kiné.